Si vous voulez vous joindre à moi, nous allons continuer notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons étudier Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 18. Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Puis je vis une autre bête montée de la terre, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, j'ai donné comme titre aujourd'hui à la leçon la deuxième bête qui sort de la terre, qui est le faux prophète, s'allie à la première bête pour tenter de vaincre l'Église. Alors, on va regarder trois grandes idées à l'intérieur de ce texte-là. La première est le faux prophète, sa manifestation, à partir du chapitre du verset 11 jusqu'au verset 14a. Et ensuite, on va regarder le faux prophète, sa manipulation, verset 14b, aller jusqu'au verset 17. Et la troisième idée, le faux prophète, sa malédiction, verset 18. On avait vu au cours des dernières semaines que Satan avait échoué à plusieurs reprises dans sa tentative d'éliminer l'Église institutionnelle. Il avait essayé par la force et la persécution, mais qu'avec le temps, il a voulu changer de tactique. Il se concentre maintenant sur la séduction et la tromperie des chrétiens individuels. Donc, il a passé de l'Église institutionnelle à l'Église, aux membres individuels de chacune des Églises. Il est important, ici, de se rappeler cette remarque du pasteur et commentateur William Hendrickson, qui nous donne un excellent résumé de l'ensemble du chapitre 13 de l'Apocalypse dans son commentaire. Alors, je vous le lis, je vous le cite. Le chapitre 13 nous parle des agents ou des instruments dont se sert le dragon pour attaquer l'Église. Deux bêtes sont décrites. La première est un monstre horrible. La seconde a une apparence inoffensive, mais à cause de cela même, elle est plus dangereuse que la première. La première monte de la mer, la seconde de la terre. La première est ce qu'on pourrait dire la main de Satan, tandis que la seconde est plus son esprit. La première représente la force et la persécution de Satan, qui opère dans ce monde par l'intermédiaire des nations et de leur gouvernement. La seconde symbolise les fausses religions, les fausses philosophies, qui ont cours dans ce monde. Les deux bêtes mènent la lutte contre l'Église tout au long de notre dispensation. Mais l'apôtre les dépeint dans des termes qui correspondent à la forme prise par ces bêtes à la fin du premier siècle. En Apocalypse, chapitre 14, verset 8, apparaît un troisième acteur, Babylone, la prostituée. Satan emploie donc au total trois alliés dans le combat qu'il mène ici-bas. La persécution, les religions et la séduction antichrétienne. Alors, citation vient du livre de William Hendrickson, Apocalypse plus que vainqueur, aux éditions Grâce et Vérité, édition de 2010 à la page 153. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder aujourd'hui le faux prophète, sa manifestation, et le passage va du verset 11 jusqu'au verset 14a, donc la première partie du verset 14. Encore une fois, le pasteur et commentateur Herman Oxema nous éclaire beaucoup sur ce passage par une observation que je vais vous lire. Alors, je cite. « Comment devons-nous concevoir la réalisation de la seconde bête dans l'histoire? » Pour répondre à cette question, je dirais en premier lieu que la bête dans son ensemble ne représente pas une seule personne, un seul individu, mais plutôt toute la puissance de la fausse philosophie et de la science et de la religion combinées. À l'avenir, toutes les sciences et philosophies et toutes les religions seront unies en une seule science, une philosophie et une religion. Il n'y aura plus de divergence d'opinion. Tout comme politiquement, le monde sera un, il en sera un intellectuellement et religieusement. Ils doivent avoir les mêmes idées sur les choses. Ils admireront la même science. Ils auront la même religion. Déjà, nous en entendons parler à notre époque. Et cette nouvelle religion embrassera toute chose. Ce sera universel. Tous les credos religieux et toutes les dénominations et tous les sectes seront mélangés et unis en une seule, afin qu'il n'y ait plus de conflits et de querelles ecclésiastiques. Il doit avoir un credo universel établissant les préceptes et les principes pour chaque sphère de la vie. Elle fixera les règles de notre vie individuelle, tout comme le fait la religion chrétienne. Elle établira aussi les principes de notre vie domestique, tout comme le fait la religion chrétienne. Il révélera les principes de la vie de la société et de la vie des nations. Il fixera les règles de la vie religieuse en particulier, dira à tous les hommes comment ils doivent adorer et ce qu'ils doivent adorer. Ce sera un nouveau système de pensée et de religion, avec un nouveau credo, universel dans sa portée, et en même temps, avec un nouveau Dieu. Ce nouveau Dieu sera la bête, la grande puissance mondiale, que tous admireront et adoreront, et pour qui ils érigeront une image afin qu'ils puissent l'adorer. Alors, ceux qui ont les notes, vous pourrez voir que ça vient de Herman Oxema dans Behold He Cometh, An Exposition of the Book of Revelation, Reformed Free Publishing Association, Grand Rapids, Michigan, page 470 et page 471. Bien entendu, le texte original était en anglais. Je l'ai fait traduire par Google, qui fait un travail raisonnable. Et là où ça nécessitait des corrections, j'essayais de les faire, mais tout en conservant la fidélité au texte original. Ceux qui ont les notes, quand vous allez voir dans la citation qu'il y a des caractères en gras et des soulignements, je veux juste rappeler qu'ils sont de moi et non pas, c'est pas dans le texte original. Donc la première bête qu'on avait vue, que celle qui sort de la mer, elle est de nature politique. Donc c'est l'union de plusieurs nations qui s'entendent pour vouloir attaquer l'Église. Et alors cette bête politique-là, elle aura besoin d'être soutenue par la deuxième bête, qui, elle, est plus de nature religieuse et philosophique. La deuxième bête, on sait que c'est le faux prophète par des textes qu'on va trouver plus tard dans l'Apocalypse. Alors la deuxième bête, qui est le faux prophète, va servir la première bête, qui est de nature politique. Donc le religieux va servir le politique, et le politique, les deux vont travailler de concert ensemble, en unité, en collaboration. Les deux seront des alliés, et vont travailler en collaboration, comme elles l'ont fait au cours des siècles passés. On pourrait multiplier les exemples de ce que ces choses-là sont arrivées dans le passé, autant au premier siècle, au deuxième, au troisième, dans tous les siècles. Il y a toujours eu une entente entre les gouvernements de ce monde et les religions ou la religion de ce monde, celle qui est dominante, et les autres pour écraser la véritable religion. Alors, on peut se demander, la deuxième bête, on dit qu'elle donnait, moi je disais tantôt qu'elle était de nature religieuse, comment on peut le savoir avec certitude? Alors, c'est que les Saintes Écritures qui nous l'enseignent. Alors, les Saintes Écritures nous enseignent l'identité de la deuxième bête. C'est le faux prophète. Si on va un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, et versets 13 et 14, on va avoir une affirmation par la Bible de cette idée-là. Alors, Apocalypse, chapitre 16, versets 13 et 14. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, à noter dans le verset 13 que ça dit, il y a trois choses qui sont mentionnées, le dragon, on sait que le dragon c'est Satan, de la gueule de la bête, donc la bête c'est la puissance politique, l'ensemble des nations qui se sont unies, donc la bête de nature politique, et la troisième mention, et de la bouche du faux prophète. Alors, c'est très clair ici que la deuxième bête, c'est le faux prophète. Et on les nomme et on les identifie de façon très claire dans le reste du verset 13, lorsqu'on dit de ces trois personnes-là, ou trois mentions-là, dragon, bête, faux prophète. Alors on dit que c'est trois esprits immondes, semblables à des grenouilles, et après on explique qui ils sont en réalité, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Donc on voit ici quelque chose d'intéressant, c'est que les démons vont avoir une certaine capacité de séduire et de tromper, soit par des prodiges, qu'ils soient réels ou qu'ils soient mensongers, ou qu'ils soient faux, et ils vont aller vers les rois de la terre et du monde entier, et leur but, c'est de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On a aussi un autre texte, deux autres textes en fait, qui nous identifient la deuxième bête d'Apocalypse 13 comme étant le faux prophète. Alors, si on voit un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, au verset 20, nous pouvons lire « Mais la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète, qui, devant elle, avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant, dans le soufre. » Alors, bien important, on répète, « Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. » Donc, la deuxième bête. Et on a un petit peu plus loin également, dans l'Apocalypse, au chapitre 20, au verset 10, on a encore la même idée qui est répétée. « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Alors, dans le verset, dans 20-10, dans l'Apocalypse 20-10, on voit les noms qui sont mentionnés de façon très claire. Le dragon, c'est le diable. Ensuite, on a la bête, la première bête nature politique, et la deuxième bête qui est de nature religieuse, le faux prophète. Ils sont tous les trois, ils sont jetés dans l'étang de feu et de soufre, et ça dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, c'est vraiment la punition dans l'enfer pour l'éternité. Alors, dans le verset 11, qu'on va relire, on voit son apparition. Ça dit, puis, alors celui qui parle ici, c'est bien sûr, c'est Jean, dit, « Puis je vis une autre bête montée de la terre qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Alors ici, on voit quelque chose de particulier. La bête, premièrement, elle ne monte pas de la mer, elle monte de la terre. Deuxièmement, elle n'a pas le même nombre de cornes que la première. Elle n'a seulement que deux cornes. Et les cornes ont quelque chose de particulier, qu'elle ressemble à un agneau. Mais, d'un autre côté, cette même bête parle comme un dragon. Donc, elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Donc, ici, la nature religieuse est vraiment l'agneau. Bien sûr, on sait que ça fait référence à Jésus. Alors, elle a deux cornes semblables. Alors, elle a l'air innocente, elle a l'air inoffensive, comme un agneau. Mais cependant, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle dit des choses, elle ressemble plus au dragon, donc à Satan lui-même. On peut dire que cette deuxième bête représente en gros tout ce qu'il peut y avoir eu dans l'histoire de l'humanité de fausses prophéties, dans ces diverses perversions de la vérité biblique. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste, bien sûr, par plusieurs moyens. Ça se manifeste par les fausses doctrines. On sait que tout au cours de l'histoire, Satan a envoyé ses agents dans le monde, ses faux prophètes, ses faux docteurs, dans le but d'introduire des fausses doctrines dans la religion chrétienne. Mais c'est pas le seul moyen qui est utilisé. Il a aussi utilisé les fausses religions. Bien sûr, les grandes religions de ce monde sont tous sous l'inspiration et sous le contrôle direct de Satan lui-même. Et aussi, avec toutes ces faussetés-là, il faut aussi ajouter les fausses philosophies qui sont opposées à Dieu. Alors, si quelqu'un se mettrait à étudier la philosophie dans son ensemble, il verrait que beaucoup d'entre elles sont opposés à Dieu, et surtout à Dieu, le Dieu de la Bible. Et bien sûr, ils utilisent aussi ce qu'on pourrait appeler la fausse science. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont avancées au nom de la science pour essayer de détruire la foi chrétienne et biblique. Mais souvent, si on gratte un peu à la surface, ce qui paraît de la science à première vue n'en est pas en réalité. Et bien entendu, l'autre moyen que le malin utilise, c'est l'art et la littérature pervertie et aussi les moyens de communication. Donc, tout ce qui sort de la bouche, fausse doctrine, fausse religion, fausse philosophie, fausse science, l'art et la littérature pervertie et les moyens de communication, les médias, etc. Alors, le malin se sert de toutes ces choses-là de façon simultanée dans le but d'introduire de la fausseté et dans le but d'égarer, dans le but de stopper les chrétiens dans leur témoignage sur la terre. Alors, on ne peut pas dire que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, ne nous a jamais parlé de ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ nous a avertis sur toutes ces choses. Allons regarder quelques versets du Nouveau Testament qui nous parlent de cela, des avertissements que la Bible nous donne dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Ici, c'est Jésus qui parle. « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravissants. » Imaginez l'image, un loup qui est déguisé avec une peau de brebis. Alors, la séduction, faut vraiment regarder très rapidement pour ne pas reconnaître qu'un loup est déguisé. Il se déguise en brebis. Alors, il dit de se garder, de faire attention. En réalité, c'est des loups. Et ils veulent paraître des brebis, mais dans le fond, ils sont des loups. Acte 20, versets 28 à 30. Alors ici, c'est Paul qui... Alors il dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples après eux. » Alors ici, on sait que c'est Paul qui parle à des évêques, à des pasteurs. Il leur dit d'abord, prenez garde à vous-même, ensuite aussi prenez garde au troupeau que le Saint-Esprit vous a confié et que vous avez le devoir de nourrir, de paître, de diriger, de guider. Et il nous montre que le troupeau que Jésus a acquis, il l'a acquise par son propre sang. Alors, et il sait que lorsqu'il va partir de ce monde, il va s'introduire des loups ravissants. Alors ici, il est en train de parler de l'Église et qu'à l'intérieur de l'Église, ces gens-là vont s'introduire. Alors, l'avertissement vient nous faire prendre conscience que les agents de Satan, les outils de Satan humains, vont s'introduire à l'intérieur des églises, à l'intérieur des organisations chrétiennes, dans le but d'introduire et d'annoncer des doctrines pernicieuses. Doctrines pernicieuses, c'est des doctrines qui sont fausses, dangereuses, et pouvant conduire, nous éloignant de la vérité, et nous éloignant de la doctrine de la Bible. On a aussi un autre passage, dans 2 Corinthiens, au 11e chapitre, les versets 13 à 15. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses ministres se déguisent aussi en ministre de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Alors ici, on a vraiment un avertissement qu'il va y avoir des faux enseignants, des ouvriers, des personnages qui vont s'introduire dans les églises et qui vont volontairement, ils vont être déguisés comme s'ils étaient des ministres de Dieu, mais dans le fond, ça dit que Ça dit, il n'est donc pas surprenant que ces ministres, les ministres de qui? Les ministres de Satan. Donc, il va y avoir des serviteurs de Satan qui vont s'introduire dans les églises. Et ils vont être déguisés en ministres de justice. Ils vont avoir l'air de personnes régulières qui enseignent la Bible comme tout le monde. Mais dans le fond, leur but va être d'apporter des faux enseignements. Ils vont être déguisés, leur but, ça va être de tromper. Alors, on a vraiment besoin de discernement. On a vraiment besoin d'être attentif à tout ce qui se passe autour de nous dans ce monde, et plus particulièrement à notre époque moderne. Et on va terminer avec le 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. Alors ici, Paul nous avertit. Il dit, « Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Intéressant, c'est ce qui est mentionné dans le verset 9. Ça dit que lorsque cet impie va apparaître, souvent, il va utiliser de la puissance, des prodiges. Et ici, ça mentionne que les miracles qu'il va prétendre être des miracles sont faux. Des prodiges et de faux miracles. Alors, quand on regarde l'ensemble de ces versets-là, et on voit que Jésus nous a avertis, que le Nouveau Testament nous a avertis, qu'il ne faut pas se surprendre qu'il y ait un faux prophète qui essaie d'amener les chrétiens dans des mauvaises directions et de les mêler et d'empêcher leur action et leur témoignage dans ce monde. Dans le verset 12, on voit aussi le rôle du faux prophète. Et ça dit que la deuxième bête, en parlant de la deuxième bête, Apocalypse 13, verset 12, elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorait la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Alors ici, on voit quelque chose de particulier. La deuxième bête, qui est le faux prophète, qui amène des mensonges par les fausses religions, les fausses philosophies et bien d'autres choses. Son but, c'est d'amener les habitants de la terre à adorer la bête, donc la première bête, qui est de nature politique. Donc les gens vont tellement voir en elle quelque chose de glorieux qu'ils vont être prêts à même à l'adorer. Alors, ça dit qu'elle faisait, la deuxième bête, que la terre et ses habitants adoraient la première bête, donc la bête de nature politique dont la plaie mortelle avait été guérie. Alors, on voit ici que le Seigneur a permis que le faux prophète reçoive lui aussi l'autorité de Satan. On avait vu que la première bête avait reçu l'autorité de Satan. Important aussi de noter le verbe « reçu ». Donc, c'est pas quelque chose, il n'a pas pu l'exercer au moment où il voulait, de la manière dont il voulait. Il est sous le contrôle souverain et absolu de Dieu. Donc, il a reçu l'autorité. La première bête l'avait reçu de Dieu, l'autorité, la permission d'agir et d'exécuter le plan de Dieu, la deuxième également. Alors, c'est très important de réaliser cela. Alors, on voit que la deuxième bête va travailler de façon très étroite avec la première bête qui qui est de nature politique. Autrement dit, le religieux va aider au soutien et à l'existence de la bête politique. Donc la deuxième bête, le faux prophète, il est au service de la première bête et il cherche à établir le règne universel de la première bête en amenant les hommes à l'adoration de la première bête. Et dans le verset 13 et le verset 14, la première partie du verset 14a, on va voir comment le faux prophète agit, ses actions. Alors, ça nous dit, et elle opérait de grands prodiges. Quand on dit elle, bien entendu, c'est le faux prophète, c'est la deuxième bête. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Alors le faux prophète a un grand pouvoir pour émerveiller les hommes par des signes et des miracles. Alors comme il s'agit de Satan du malin, il est possible que certains signes soient des supercheries causées soit par la science ou soit par la technologie. On sait qu'aujourd'hui, c'est très possible. Ce peut aussi être l'action des démons. Alors rappelons-nous que dans les Écritures, la Bible nous parle que Satan a un certain pouvoir de tromper par les miracles. Et on va simplement utiliser un exemple, et celle des magiciens d'Égypte qui imitaient certains miracles de Moïse. On va juste effleurer le sujet, mais c'est juste pour démontrer que le malin a un certain pouvoir qui va jusqu'à un certain degré. Si on retournait dans Exode, et qu'on regardait l'ensemble de tout ce qui a été dit sur les magiciens, on s'apercevrait que les magiciens avaient un certain pouvoir d'agir et d'imiter certains miracles que Moïse avait faits, mais qui est arrivé à un point où ils ne pouvaient plus. Alors la magie du malin est toujours limitée, et tandis que les miracles de Dieu ne sont jamais limités. Alors, dans Exode, chapitre 7, versets 10 et 11, on voit ici que les magiciens pouvaient aussi agir avec des miracles, mais bien sûr, ils le faisaient de façon limitée. On lit dans Exode 7, versets 10 et 11. « Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon et firent ainsi, comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs, et les magiciens d'Égypte firent eux aussi la même chose par leurs enchantements. » Alors on voit que, et on pourrait citer d'autres exemples bibliques, mais que celle-ci suffit pour montrer que Satan a un certain pouvoir dans le monde du miracle, mais que c'est très limité dans sa capacité d'agir. Et on a aussi l'avertissement de Jésus, que Jésus nous donne dans Matthieu, chapitre 24, les versets 24 et 25. Il nous dit « Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. » Alors ici, le Seigneur nous fait un avertissement extrêmement sérieux. Il nous dit qu'il va y avoir des faux Christ et des faux prophètes qui vont s'élever et qu'ils vont faire des grands signes et des grands prodiges, donc des grands miracles, des choses qui vont éblouir, qui vont séduire les hommes. Et ça dit que le pouvoir de séduction que c'est que, le faux, que les faux Christ et les faux prophètes vont amener vont être tels que les élus eux-mêmes, autrement dit les croyants, vont être séduits. Parce que ça dit, pour séduire les élus mêmes, ça dit même, s'il était possible. Alors, quelque part, qu'est-ce qui fait que les élus ne se laisseront pas séduire? C'est sûrement, encore une fois, la grâce de Dieu. Alors, le Seigneur nous dit, voilà, je vous l'ai prédit. La deuxième chose qu'on va regarder aujourd'hui dans le texte qu'on étudie, c'est vraiment la deuxième idée, le faux prophète, sa manipulation. Autrement dit, il va y avoir, le faux prophète va avoir un immense pouvoir de séduire les hommes. Une des façons qu'il va utiliser pour séduire l'ensemble de l'humanité, savoir de manipuler les hommes en divinisant l'État. Autrement dit, l'État, le gouvernement, va devenir un objet d'adoration. Et ça dit dans le verset 14, « Disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête après avoir reçu le coup mortel et encore en vie. » Alors, on sait que l'histoire de l'Église et l'histoire ordinaire de l'ensemble des hommes séculaires ont démontré très abondamment et très souvent que les gouvernements humains et leurs représentants outrepassent parfois leurs droits et exigent pour eux des prérogatives et des devoirs qui sont par nature exclusivement réservés à Dieu seul. Nous savons, par exemple, que les empereurs romains ont exigé que le peuple de Dieu les adore comme Dieu. Nous avons aussi un exemple plus récent, plus proche de nous, l'exemple du culte de la race du Troisième Reich allemand. On a aussi, encore là, plus proche de nous, le communisme qui a agi comme si le gouvernement avait tous les droits et imposait des choses, des devoirs qui sont uniquement réservés à Dieu. Ils ont usurpé des droits divins. Pour montrer que c'est des choses qui sont loin d'être nouvelles, on peut aller dans le livre de Daniel et voir que un roi de l'Ancien Testament, qui est Nebuchadnezzar, qui était un des rois les plus puissants, le roi de Babylone, de l'époque, avait, par l'élévation de la statue d'or, avait exigé l'adoration. Donc c'est vraiment une idée similaire à celle qu'on est en train de lire, que c'est une adoration des gouvernements. Daniel chapitre 3. Versets 4 à 7. Et le héros cria à haute voix. On vous fait savoir, peuple, nations et langues, qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi au moment même où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments, ils se prosternèrent tous, peuples, nations et langues, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Quand on étudie un petit peu le livre de Daniel, et qu'on regarde, on regarde un petit peu la signification de la statue. Bien sûr, c'est une étude complète en soi, là. On ne fait qu'effleurer le sujet aujourd'hui, là. On sait que la statue, à partir de la tête, allait jusqu'aux pieds, elle était faite de métaux différents. La tête était d'or, et après ça, il y avait du bronze, après ça, jusqu'aux pieds, des orteils, il y avait de l'acier, et qu'on pourrait dire du ciment. Alors, bien sûr, ça vient parler de l'adoration que les hommes vont avoir des gouvernements et des différents gouvernements sous leurs différentes formes, parce que la statue représente, quand on parle de l'or et des différents métaux, plus on descend vers le bas, plus ça se gâte, autrement dit. Alors, on peut voir par cet exemple-là de l'Ancien Testament que l'adoration, la volonté des gouvernements d'être amenés au point où ils veulent être adorés par le peuple, c'est pas quelque chose de nouveau. Dans le verset 15, on voit que la manipulation du faux prophète va aussi s'exécuter par le meurtre contre ceux qui vont s'opposer, qui vont se considérer comme des non-adorateurs de l'État. On se souvient que dans le livre de Daniel, il y en a qui ont refusé et ils ont été emmenés dans la fournaise de feu. Et on sait toute l'histoire, on reviendra pas sur l'histoire, mais dans le fond, l'idée, c'est juste que le gouvernement exige quelque chose, il y a des opposants, il y a des personnes qui vont dire non, on ne fera pas ça, on n'adore pas un gouvernement, ni une statue, ni quoi que ce soit, c'est de l'idolâtrie, et ils ont refusé, mais quelque part, ici, on vient de voir les conséquences de ceux qui vont refuser d'adorer le gouvernement de l'époque. Alors, ça dit, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. » Il, c'est qui? Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. « Afin que l'image de la bête parlât. » Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Alors, il y a quelque chose d'important ici qui nous est mentionné dans la deuxième partie du verset. « Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. » Alors, il va arriver un moment où les gouvernements, ça s'est produit dans le passé, premier siècle et ailleurs, et dans le temps, dans l'histoire de l'Église et du monde, où il y a eu le phénomène équivalent. Et il y a eu vraiment des mises à mort pour tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre à la volonté de l'État d'être adoré. Alors, la bête, la deuxième bête, ou le faux prophète, ne tolérera aucunement que quelqu'un refuse de l'adorer. Le verdict va être radical. Ce sera la mort à tous ceux qui vont s'opposer. Alors, l'État utilisera, bien sûr, les forces qui sont à son service pour s'assurer de l'exécution d'adoration par tous, sans exception. On va utiliser fort probablement les camps de concentration, la police, l'armée, etc. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va arrêter là et on terminera notre chapitre 13 la semaine prochaine. Alors, bonne semaine à tous et que le Seigneur bénisse votre semaine. Amen.